Anne-Marie nous l'a dit tout à l'heure, nous allons profiter de ce culte ce matin pour prier pour deux jeunes enfants. Et le texte que j'aimerais vous lire ce matin en introduction, avant d'inviter les parents et les enfants à s'avancer, c'est un texte que nous trouvons dans le livre du Deutéronome au chapitre 6. Et dans un texte relativement solennel, le Seigneur parle à son peuple et dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. » Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. L'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas construites, des maisons pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantées. Ce matin, nous nous rassemblons dans cette église parce que nous croyons que l'Éternel est le seul Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre, mais que c'est aussi de lui que nous tirons en fait notre vie. C'est de lui aussi que nous vivons de sa parole. Et c'est à sa suite que nous marchons aussi parce qu'il nous a promis de grandes choses, comme il avait promis au peuple d'Israël lorsqu'il est entré en Israël, quelque chose que nous n'avons pas conquis, quelque chose que nous ne méritions pas, mais que le Seigneur a en réserve pour son peuple. Et dans ce texte, le Seigneur encourage les parents à transmettre ses commandements et transmettre ces paroles à leurs enfants pour qu'eux-mêmes vivent de cette parole, pour qu'eux-mêmes respectent ces commandements et qu'ils soient aussi inscrits dans leur cœur et qu'eux-mêmes aussi découvrent en fait quelles sont ces promesses que le Seigneur a pour eux et qu'il a en réserve. Et ce matin, j'aimerais utiliser cette illustration et ce texte pour le moment de prière que nous allons avoir maintenant pour Mathieu et puis pour Neil. Et j'aimerais inviter Fanny, Ephraim, Paul et Zoé à bien vouloir s'avancer. Et nous allons prier, d'une part, bien sûr, pour les enfants, afin que le Seigneur fasse son œuvre dans leur cœur, mais aussi nous allons prier pour les parents. Parce que, peut-être de façon plus importante encore que l'Église, ce sont les parents qui ont la responsabilité d'éduquer leurs enfants, de leur transmettre non seulement par leurs paroles, mais par leur exemple, l'amour qu'ils ont pour la parole. Alors, ce que j'aimerais, c'est demander à nos chers amis de s'avancer. Et je voudrais demander à Philippe et à Pierre de bien vouloir eux aussi s'avancer. Et en notre nom, à nous tous, et même je vous demanderai peut-être de vous lever comme signe simplement que vous êtes derrière nous dans cette prière. J'aimerais demander à Pierre s'il voulait bien prier pour Mathieu et pour Neil. Et ensuite, je demanderai à Philippe de bien vouloir prier pour les parents et la tâche qu'ils ont devant eux.
C'est une preuve aussi de ta fidélité. La fidélité par rapport au désir, c'est vrai, de parents d'avoir des enfants. Et merci parce que tu as comblé ainsi Paul et Zoé, parce que tu leur as donné de Mathieu. Et je veux te prier ce matin. Nous voulons tous ensemble te prier pour Mathieu, pour que tu le bénisses tout le long de sa vie. C'est vrai que nous voulons qu'il soit protégé. Nous voulons que ici aussi nous puissions être pour lui des repères, que nous puissions aussi l'aimer comme il le souhaite et comme toi tu souhaites pour lui aussi. Sois, c'est vraiment une bénédiction vraiment pour lui. Et vraiment, on te prie aussi pour Neil, pour que tu le bénisses aussi tout le long de sa vie, que tu le protèges dans sa croissance, dans son éducation, pour que chacune de ses vies, de sa vie, tu les connais. Et c'est vrai, nous sommes heureux ce matin de te les remettre tous les deux, de remettre leur parcours. Et c'est vrai pour qu'ils reçoivent un jour ta parole, pour qu'ils comprennent ce message de l'Évangile, qu'ils puissent avoir cette graine qui a été plantée, qu'elle puisse être semée, arrosée à chaque instant par toi. Vraiment, sois pour eux vraiment ce refuge quand ça ira moins bien. Sois pour eux ce rayon de soleil, cette joie, cette louange, cette reconnaissance, quand ça ira moins bien aussi et quand ça va bien aussi. Oui, sois loué, Père. Merci encore de les avoir donnés. On te prie encore pour vraiment leur bénédiction à chacun d'eux. Et au-delà d'eux, on veut te prier aussi pour tous les jeunes enfants de l'Église encore, pour ceux qui ont déjà été présentés précédemment, pour que là aussi, nous te les rappelons aussi à toi, pour que tu prennes encore soin d'eux. Amen.
Oui, Seigneur, c'est vrai, nous voulons te remettre aussi les parents de Neil et Mathieu. Nous te remercions d'avoir donné ces parents à Neil et à Mathieu. C'est vrai, nous te prions pour Fanny et Ephraim, pour Zoé et Paul. Nous te les remettons afin que tu continues de les bénir, que tu les remplisses tout particulièrement de ton Saint-Esprit, afin qu'ils soient tout à nouveau qualifiés pour conduire ces enfants, pour les accompagner dans la vie, pour leur faire connaître aussi ton nom, pour que leur vie soit un témoignage qui leur donne envie de te connaître, qui leur donne envie de te rencontrer, de faire de toi leur sauveur, de faire de toi leur Seigneur aussi en toutes choses dans leur vie. Oui, Seigneur, nous te remettons ces parents afin que tu les conduises et que tu les bénisses. Amen.
Je voudrais aussi peut-être nous encourager les uns les autres à, lorsque nous prions les uns pour les autres, prions aussi les uns pour les autres lorsque nous sommes parents. Et nous savons tous, nous tous qui avons été parents, à quel point cette tâche demande de l'énergie tous les jours, demande de la créativité, demande aussi de la persévérance, mais demande aussi beaucoup de sagesse. Et donc j'aimerais, comme nous prions pour nos enfants dans l'Église, et vous tous qui vous êtes engagés à prier pour nos enfants, j'aimerais aussi, lorsque vous pensez à d'autres personnes dans l'Église, pensez à elles en tant que parents. La tâche magnifique que le Seigneur leur a confiée, mais en même temps, vous savez comme moi, cette tâche qui est assez exigeante et pour laquelle on n'est pas toujours préparé. Donc je voudrais vraiment nous recommander les uns aux autres afin que nous puissions nous soutenir les uns les autres dans cette tâche que nous avons. Ce matin, je voudrais en fait poursuivre la série que nous avions commencée au printemps sur les promesses de Dieu. Et plus d'une fois, on a évoqué que dans l'Écriture, on pouvait dénombrer des milliers de promesses de Dieu. Alors, personne n'est vraiment d'accord sur le nombre de promesses qu'il y a dans la Bible. Et puis, en fin de compte, on peut se demander si ça a vraiment une importance, de savoir exactement combien de promesses il y a dans la Bible. La première des choses dont il faut faire attention, c'est naturellement d'être certain que lorsque Dieu fait des promesses à quelqu'un, que ces promesses sont aussi des promesses pour nous. Il y a quand même des choses que le Seigneur a dit à certaines personnes, ça ne veut pas nécessairement dire que nous pouvons les extrapoler et dire c'est aussi vrai pour nous. Et donc ce n'est pas tellement, me semble-t-il, le nombre de promesses qui est important dans l'Écriture, que ce sont trois choses que Pierre avait déjà rappelées au début, mais que j'aimerais rappeler et qui est la raison pour laquelle nous voulions faire cette série. La première, c'est que le Seigneur est un Dieu qui parle, et lorsqu'il parle, sa parole a un effet. Vous savez, comme moi, lorsqu'il a parlé dans la Genèse, il y a eu la création. Et tout au long de l'Écriture, à chaque fois qu'il va parler de sa parole, ce n'est pas une parole qu'il dit en l'air, ce n'est pas simplement « je souhaiterais que quelque chose se passe », c'est une parole qui est efficace et qui va engendrer un effet. Et donc si le Seigneur nous a laissé des promesses, et on va revenir là-dessus, ces promesses, ce n'est pas simplement « voilà ce que j'aimerais éventuellement faire pour toi », c'est « voilà ce que je vais faire pour toi ». Et lorsque ces promesses nous paraissent tellement extraordinaires, il faut nous dire une chose, c'est que si le Seigneur a parlé, aucune de ses paroles ne tombe à terre et aucune ne revient à lui sans qu'elle ait produit son effet. Et donc, moi, ce que je voudrais, c'est la raison pour laquelle on a choisi de faire cette série, c'est de se dire, attendez, si le Seigneur nous a donné de belles choses et grandes choses, comme cette terre que le peuple d'Israël allait conquérir, il nous faut écouter, parce que la parole du Seigneur est une parole qui est efficace. La deuxième chose qui est importante aussi dans l'Écriture, et vous le savez comme moi, c'est lorsque Dieu s'engage, il s'engage. Et dans l'Ancien Testament, on a plusieurs fois, lorsqu'il fait alliance avec les hommes, il va même au-delà de ce que les hommes peuvent faire pour lui, et lui s'engage à fond et ne revient pas en arrière sur ce qu'il a dit. Le Dieu que nous adorons aujourd'hui est un Dieu sur lequel nous pouvons compter parce que les engagements qu'il prend, il les tiendra. Et il les tiendra envers et contre ce qui peut se passer dans notre propre vie. Regardez à nouveau ce qui s'est passé dans le peuple d'Israël, le nombre de fois où ce peuple s'est détourné, ne s'est pas comporté comme quelqu'un qui méritait l'engagement du Seigneur. Combien de fois est-ce que le Seigneur aurait pu dire « Mais attends, maintenant le deal est fini, moi je m'en vais, toi tu n'as pas respecté ta parole, moi je ne respecte plus la mienne ». Et pourtant, qu'est-ce qu'on constate? C'est que nous avons un Dieu qui s'engage. Et il s'engage avant même que nous pouvons nous comporter envers lui d'une façon qui soit totalement satisfaisante. Et c'est pour ça qu'il me semblait important, avec les autres membres du Conseil, que nous puissions à un moment ou à un autre nous arrêter sur quelles sont ces promesses, qui ne sont pas simplement de belles choses que éventuellement on pourrait saisir, mais qui sont quelque part des fondements sur lesquels il nous faut construire notre vie. Et vous allez voir, recevoir les promesses de Dieu, ce n'est pas toujours une chose aisée. Clément, est-ce que je peux te demander de... Très bien, merci. Dans sa lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul termine une très belle lettre dans laquelle il parle en fait de comment Dieu intervient dans la vie de tous les jours et par Jésus-Christ. Et il termine avec ces paroles « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. » Lorsque Paul exprime sa reconnaissance envers les Philippiens, et envers Dieu, il dit cette phrase « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse. » Nous avons compris cette parole au cours des siècles et toujours comme étant une promesse du Seigneur. Mais c'est d'abord et avant tout une conviction qu'a l'apôtre Paul. Au vu de ce qu'il a vécu lui dans toute sa vie et au vu de ce que les Philippiens avaient fait pour lui, il arrive dans un moment de louange et de reconnaissance d'affirmer « Moi, je suis certain que Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Et cette conviction, elle reste parmi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, que Dieu, en fait, pourvoit à nos besoins. Et en fait, l'apôtre Paul, lui, ne dit pas grand-chose d'autre qu'en fait ce que quelqu'un d'autre disait, qui était Jésus lui-même. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas? Il n'est peut-être même pas allumé. Alors voilà, voilà, il va être allumé. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. » Et ensuite, un peu plus bas, au verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, lui, et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas à plus forte pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous. Je suis toujours dans Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. L'avantage de ce texte de Jésus, c'est qu'en fait, il va expliquer beaucoup de choses qui se trouvent derrière cette belle conviction de l'apôtre Paul, qu'il déclare tout simplement que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Et dans ce texte, nous allons pouvoir trouver ce qui permet à Jésus, lui aussi, d'affirmer de façon extrêmement simple, mais sans discussion, que nos besoins sont pris en charge par le Seigneur et que c'est lui qui s'en occupe. Maintenant, ce qu'il y a de plus intéressant dans le texte de Jésus, c'est qu'en fait, il va toucher du doigt, en fait, où est le véritable problème qu'ont les hommes. Et le véritable problème qu'ont les hommes, et ça, c'est une des choses importantes avec les promesses de Dieu, c'est que nous nous inquiétons. C'est que nous nous inquiétons. Et son texte démarre immédiatement en disant « Ne vous inquiétez de rien. » Ne vous inquiétez de rien. Alors, on peut peut-être penser qu'à l'époque, Jésus parlait à de pauvres personnes qui mendiaient, qui travaillaient au jour le jour, qui n'avaient pas vraiment de moyens de planifier à plus long terme parce qu'il n'y avait pas d'argent pour investir, il n'y avait pas nécessairement les mêmes outils et la même technologie qu'on avait. Et pourtant, à la fin 2012, qu'est-ce qui préoccupe les Français? À la fin 2012, 78% des Français sont préoccupés par le chômage. 58% sont préoccupés par la santé et la qualité des soins. 54% craignent pour leur pouvoir d'achat. 49% ont peur pour leur retraite. 38% craignent de plus en plus les inégalités sociales entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et 32% ont peur pour le logement. Préoccupations dont Jésus parlait à l'époque et les préoccupations de nos contemporains ici se rejoignent. Et souvent, au fin fond de notre cœur, il y a un certain nombre de choses qui nous préoccupent. Mais pire que tout, c'est lorsque vous prenez cette étude et que vous commencez à regarder les différentes tranches d'âge, ces préoccupations deviennent plus grandes et plus vives au fur et à mesure qu'on avance en âge. Alors à vous tous qui êtes encore jeunes ici et pour qui le lendemain n'est peut-être pas quelque chose qui vous soucie, c'est peut-être pas encore tout à fait d'actualité. Mais le problème, c'est que lorsqu'on observe les gens, et là je vous pose la question à vous-même, au fur et à mesure que vous avancez en âge, est-ce que ces préoccupations vous travaillent? Et donc ce que Jésus est en train de dire dans l'évangile de Matthieu est d'une actualité on ne peut plus réel aujourd'hui. Et lorsque Jésus dit « ne vous inquiétez pas », en fait, cette expression, elle traverse toute l'Écriture. Dès le livre de la Genèse, jusque dans l'épître de Pierre et même l'épître aux Hébreux, on aura plusieurs moments où Dieu dit « mais ne vous inquiétez pas » et surtout « ne vous inquiétez pas de vos besoins ». Parce que je le prends en charge. Et c'est un sujet qui traverse toute l'Écriture continuellement, mais ici prend une résonance toute particulière parce qu'il se trouve dans le Sermon sur la montagne de Jésus, qui est ce texte, on ne peut plus dans un sens radical de Jésus, là où il utilise des expressions extrêmement fortes, comme si on vous frappe sur la joue droite, ben attendez, la joue gauche, bienheureux ceux qui sont pauvres, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui sont piétinés. Et ici, dans ce sermon qui est presque le plus central de ce que Jésus avait à dire, il s'étend sur plusieurs versets pour dire « Mais ne vous inquiétez pas du lendemain parce que Dieu pourvoira à vos besoins. » Et Dieu et Jésus ici cherchent à arrêter quelque chose dans notre cœur. Ils cherchent à arrêter quelque chose dans notre cœur. Et combien d'entre nous, en fait, craignons éventuellement le chômage? Je suis toujours étonné on ne craint pas tellement le chômage lorsqu'on n'est pas au chômage. Moi, j'ai toutes les raisons aujourd'hui pour me dire, même s'il fallait que maintenant je m'arrête, ça irait. Mais lorsque je vois des amis qui le sont, ça commence à gamberger. Lorsqu'on commence à parler des retraites et de ce qui va arriver, etc. et tout, ça commence à gamberger. Lorsqu'on pense à nos enfants qui vont grandir dans le monde tel qu'il est, etc. et tout, qu'est-ce qui les attend ? Ça gamberge. Ça nous travaille. Moi, je me souviens une fois, j'ai demandé à mes parents, j'ai demandé à mes beaux-parents, est-ce que vous vous souciez autant de vos enfants que moi je me soucie des miens ? J'ai dit, non, on ne s'est jamais soucié. J'ai dit, attends, avec certaines galères qu'on a traversées et toutes, tu aurais pu quand même. Non. Et donc, ces inquiétudes, elles sont là, elles sont présentes au fin fond de nous. Et lorsque nous travaillons, lorsque nous mettons de l'argent de côté, lorsque nous construisons nos maisons, lorsque nous préparons nos retraites, qu'est-ce qui est derrière tout cela ? Alors il faut être clair, dans ce texte, Jésus n'est pas en train de dire « ne prévoyez pas l'avenir » ou « ne préparez pas l'avenir ». Il nous a créés capables d'anticiper sur ce qu'était l'avenir, mais ce qui, lui, l'embête et ce qu'il demande que nous arrêtions, c'est tout simplement de nous inquiéter. Parce que dans ce texte, il va montrer à plusieurs endroits qu'en fait l'inquiétude est un blocage pour des choses plus importantes dans la vie. Donc Jésus ne parle pas de cette anticipation. Il n'est pas en train de dire « ne prévoyez pas ». Mais il est en train de dire « pourquoi est-ce que vous vous inquiéteriez ?» Parce que dans la vie, il y a plus que ça. Et à la fin, il nous ramènera encore à ce qui est le plus, qui est en fait le royaume de Dieu. La préoccupation est donc cette inquiétude qui nous ronge. Et je ne vais pas vous demander de lever la main à savoir si vous-même, par moment, vous êtes préoccupé ou inquiet de l'avenir. Mais je ne pense pas qu'il y ait grande différence entre vous et moi. Et moi, parce que je suis là, je vais le confesser. Il y a des choses qui m'inquiètent pour l'avenir. Et généralement, dans l'Écriture, on découvre que l'inquiétude, elle va naître de trois choses. Soit on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, donc on se dit « je ne sais pas tout le mal qui peut éventuellement m'arriver ». Ou alors tout simplement parce qu'on ne contrôle pas les événements. Quelqu'un d'autre est en train de tirer les ficelles, ou alors c'est plus grand et plus compliqué que nous. Mais la troisième chose dans l'Écriture aussi, c'est que c'est lorsqu'on n'arrive pas à voir la dimension éternelle des choses et la dimension spirituelle des choses. Lorsque vous n'arrivez pas à voir qu'une épreuve est entre les mains de Dieu comme quelque chose qu'il est en train d'utiliser conformément à sa parole, cela vous inquiétera. Mais dès lors que l'épreuve arrive et que vous arrivez à élever un petit peu votre regard et à voir que le Seigneur reste quand même aux commandes, c'est là où la paix du Seigneur, en fait, peut envahir votre cœur et soulager ce que vous avez dans le cœur. Et j'ai recherché un certain nombre de citations sur l'inquiétude, mais c'est presque les plus belles que j'ai pu trouver, parce que cela est tellement vrai. Il y en a un qui dit, nous nous crucifions nous-mêmes entre le regret du passé et l'inquiétude pour l'avenir. C'est tellement bien dit. Tellement bien dit. On regarde notre passé, on se dit « Ah, si seulement !» Et on regarde l'avenir, on dit « Ouh, qu'est-ce qui m'attend ?» Et puis un autre qui disait « En fait, aujourd'hui, c'est le lendemain d'hier dont nous nous inquiétions. » Je répète, « Aujourd'hui est le lendemain dont nous nous inquiétions hier. » Et je disais encore à Isabelle hier, le nombre de fois ou quelquefois je me retrouve dans une situation avant d'y être et je crains, je m'en fais une montagne. Et lorsque j'arrive, je me rends compte, c'était pas si difficile que ça. Et je me dis, mais pourquoi donc est-ce que tu as été si inquiet ? Mais quel bon sens dans cette citation. Et puis une troisième qui dit, combien nous ont coûté ces malheurs jamais arrivés ? Nous ont coûté ces malheurs qui ne nous sont jamais arrivés. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Mais en fin de compte, Jésus il déclare ça, ne vous inquiétez pas, mais moi, un petit peu sceptique, je dis, mais Jésus, sur quoi, ou qu'est-ce qui te permet de dire, ne vous inquiétez pas? Parce que je veux dire, ça, c'est des choses que moi, je dis à d'autres personnes aussi, mais je le dis simplement pour les encourager. C'est de la méthode couée, à force. Mais Jésus, lui, en fait, il va aller beaucoup plus loin. Et j'aimerais, en fait, m'étendre sur deux choses. À deux reprises, Jésus, il va dire, observez et étudiez. Et la première des choses, c'est qu'il va dire, est-ce que Dieu ne s'occupe pas de sa Regardez par vous-même. Regardez les oiseaux, regardez les fleurs. Prenez quelques instants pour les regarder de près. Et vous vous rendrez compte, en fait, que ce que Dieu fait pour une fleur des champs, c'est encore mieux que ce que Salomon a pu faire pour lui-même durant toute sa vie. Et cette fleur des champs, en fait, elle n'a quasiment aucune valeur parce qu'elle va naître le matin, elle va pousser, elle va sécher, le lendemain elle ne sera plus là, personne ne s'en souviendra, il n'y aura pas de tombe, il n'y aura pas d'épitaphe, il n'y aura pas de culte pour elle. Mais si Dieu le fait pour la moindre des petites pâquerettes qu'on foule aux pieds, et le moindre petit piaf qui saline au balcon, à combien plus forte raison est-ce que Dieu pour vous, à combien plus forte raison? Alors on peut se dire, nous qui avons peut-être beaucoup de foi, on dit, ah bah oui, c'est vrai. Mais moi je ne suis pas encore tout à fait convaincu. Parce que je me dis, Jésus, tu es un grand poète. Tu regardes les oiseaux, tu regardes les fleurs, tu utilises ça comme image. Mais en fait, lorsqu'on prend le temps de réfléchir un tout petit peu et qu'on élargit un petit peu nos horizons, on se rend compte qu'en fait, l'argument de Jésus n'est pas si faible que ça. Et qu'au travers de l'Écriture, on va se rendre compte d'une chose, lorsqu'on la lit, que les théologiens ont fini par appeler par un mot qui ne se trouve pas dans l'Écriture, mais qui essaye d'en rendre compte, c'est la providence de notre Dieu. Et la providence de notre Dieu, c'est une façon pour lui d'être continuellement engagé dans sa création, dans les événements de la vie, pour qu'il maintienne la façon dont il les a créés, mais aussi pour que tout cela accomplisse sa volonté en finale. Donc le Seigneur n'est pas, contrairement à ce qu'avait dit Voltaire, quelqu'un qui a créé le monde comme une horloge, l'a remonté, puis ensuite il s'est barré, puis ça marche un petit peu tout seul. Non, le Seigneur est engagé dans sa création au quotidien pour faire que la création continue selon son intention première, même si elle est soumise aujourd'hui à la vanité et soumise à toutes sortes de choses qui peuvent la dérégler. Mais il nous est constamment rappelé dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, c'est que Dieu est engagé dans tout ça et que rien ne subsiste aujourd'hui en dehors de lui. Et il y a trois choses qui sont importantes dans la providence de Dieu. La première, c'est que Dieu préserve et maintient ce qu'il a créé. Dans l'Épître aux Hébreux, on dit qu'il soutient tout. Et par sa parole, tout subsiste. L'apôtre Paul nous disait que c'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être. De façon très poétique, Job il dit... Si Dieu ne pensait qu'à lui-même, s'il reprenait son esprit et son souffle, toute créature expirerait d'un seul coup et l'homme retournerait à la poussière. Le moindre souffle que vous êtes en train de parler, Dieu le maintient en vous. Le soleil qui se lève tous les matins, Dieu est engagé là-dedans. Et je me souviens d'une expérience extraordinaire que j'avais faite lorsque j'étais au Caire et que j'étais à côté du sphinx et le sphinx qui regarde le soleil levant et il y avait un son et lumière et là-dedans, une des dernières phrases, c'est le sphinx qui dit « Ça fait 5000 ans que je suis là et il n'y a pas un jour où le soleil ne s'est pas levé. » Et c'est là où on prend conscience de la providence de notre Dieu. Et même si aujourd'hui les scientifiques arrivent à expliquer certaines choses qui se passent et expliquent beaucoup de choses, ça n'empêche pas que le Seigneur est à l'œuvre à l'intérieur de tout ça. Dieu soutient sa création, et parce qu'il soutient sa création et la préserve, nous en serons les bénéficiaires aussi, parce que nous faisons aussi partie de sa création. La deuxième chose importante à noter dans la providence de Dieu, c'est que Dieu fait travailler les événements entre eux pour qu'en fin de compte, ça produise la volonté de Dieu. Difficile à comprendre. Et là, je ne vais pas m'étendre sur les implications par rapport à tout ce qui est le mal, mais je vais simplement m'arrêter à toutes les discussions qui ont en ce moment à propos de la Syrie. Personne ne sait ce qu'il faut faire. Qu'on fasse une chose ou l'autre, on ne peut voir que la catastrophe. Et pourtant, dans l'Écriture, Dieu dit, moi, je gère les événements. Dans Job, au chapitre 37, il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit aussi à la pluie, et même aux fortes pluies. Par son souffle, Dieu produit la glace, et la surface de l'eau se fige. Il charge les nuages d'humidité, puis il les disperse. Leurs évolutions varient suivant les directives du Seigneur, pour l'exécution de tous ses ordres à la surface de la terre habitée. Alors là, on parle encore de la création. Mais pensez à ces versets comme dans le livre des Proverbes, où apparemment les événements qui nous paraissent les plus fortuits, où on n'a pas d'explication. Ben, on lit dans le livre des Proverbes que, oui, on jette les sorts dans le pan de l'habit. Mais c'est de l'Éternel que vient toute décision. Même dans ce qui nous paraît aujourd'hui fortuit, l'Éternel dit « Je suis là ». Et à plusieurs reprises, et en particulier dans les psaumes, il parlera que lui-même, il est le Dieu des nations. C'est à l'Éternel qu'appartient le règne, et c'est lui qui domine sur les nations. Au-dessus de la Syrie, au-dessus d'Israël, au-dessus du Conseil de sécurité des Nations Unies, des Américains, des Français, des Anglais, il reste notre Seigneur là-haut. Et il va avoir du boulot pour essayer de se sortir de tout ça. Mais il n'empêche que l'Écriture est claire là-dessus. C'est que si nous ne voyons pas toujours comment ça se fait, les événements ne se passent pas sans que le Seigneur veille sur eux, fixe des limites et les dirige. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir des versets aussi beaux que celui dans l'Épître aux Romains qui nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors nous, on s'arrête souvent sur celui qui aime Dieu, donc les toutes choses concourent, mais on ne s'est jamais posé la question de comment est-ce que les choses peuvent concourir, que toutes les choses peuvent concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est effectivement parce que Dieu continue d'être celui qui maintient et qui gère les événements et qui fait advenir sa volonté. Et la dernière des choses dans la providence, c'est ce qu'on appelle un petit peu le gouvernement, c'est que Dieu, oui, dirige toutes ces choses à exécuter sa propre volonté. Et dans l'Épître aux Éphésiens, on dit « Il met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. » Et la dernière chose qui est derrière la providence de Dieu, quelque chose qui nous est rappelé en long, en large et en travers, mais que l'inquiétude, en fait, nie, c'est que Dieu est bon. Dieu est fondamentalement un Dieu qui est bon. Au point où il nous a fait grâce avant même que nous pouvions être bons en retour. Et que lorsque nous nous inquiétons, nous insinuons que la bonté de Dieu n'est pas réelle. Et Dieu il dit, tu sais, moi j'ai créé les choses, j'ai mis l'homme au centre, j'aime ma création, elle est belle, elle est bonne. Plus jamais je ne la détruirai, a-t-il promis à Noé. Et il continue de maintenir cette création. Il continue de maintenir les événements. Il continue de nous soutenir. Et tout ça parce que fondamentalement, c'est un Dieu qui est bon. Et Jérémie a pu dire tous les matins, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Alors Dieu est un Dieu qui dit d'abord... Tu manges tous les jours, tu peux travailler, tu as des habits, non pas parce que c'est toi qui le fais. Moi, je le fais parce que je suis bon envers toi et parce que c'est mon intention dans la création et c'est ce que je suis en train de faire. Et on pourrait contempler des exemples à droite et à gauche de comment le Seigneur a pu le faire. Dans le désert, lorsqu'il n'y avait rien à manger, le Seigneur a donné sa manne. Et tous les jours, cette manne, elle tombait. et le peuple pouvait la ramasser. En pleine famine, la veuve de Sarepta, de façon tout à fait extraordinaire, avait encore de l'huile et de la farine. Mais lorsque l'apôtre Paul, lui, va parler de la famine à Jérusalem et la raison pour laquelle il est tellement heureux des églises païennes, c'est parce que le Seigneur a touché leur cœur et qu'elles ont fait une collecte en faveur des chrétiens de Jérusalem qui souffraient de la famine. Voilà une autre façon dont le Seigneur a travaillé. Moi, je suis reconnaissant du fait que je peux subvenir à mes besoins, mais je reconnais dans l'adoration que c'est le Seigneur qui a permis et qui veut que je puisse assumer mes propres responsabilités. Mais c'est la façon dont le Seigneur le fait aussi. Mais ce qui est magnifique aussi, c'est que le Seigneur, dans un sens, lorsqu'il nous dit « Ne vous inquiétez pas », ce n'est pas comme s'il balayait du revers de la main nos propres sentiments. Parce que juste avant, lorsque Jésus a enseigné à ses disciples comment prier, il a bien introduit cette phrase « Donne-nous notre pain de ce jour ». Et l'apôtre Paul lui dira aussi « N'hésitez pas à aller au Seigneur et faites connaître vos besoins ». Ce n'est pas comme si le Seigneur disait « Maintenant je t'ai tout dit, maintenant arrête de me rabattre les oreilles ». Non, il est en train de dire « Tu peux venir, mais ne viens pas dans l'inquiétude. Viens pour te décharger, viens pour me glorifier. » Et en retour, c'est la paix du Seigneur qui t'envahira. Chers amis, derrière cette petite phrase, que le Seigneur pourvoira à tous nos besoins, Jésus touche du doigt ce qui est souvent ce qui fait mal. Et je vous invite à méditer pour vous dans les jours qui viennent un petit peu à quel point ce serait effectivement l'inquiétude qui vous ronge. Sachant que l'inquiétude, elle nous empêche de voir plus loin ce que le Seigneur fait. Elle nous empêche de nous libérer pour être réellement dans l'adoration et la reconnaissance envers le Seigneur. Mais appuyez en fait votre confiance et votre foi sur déjà ce que vous observez dans votre propre vie. Est-ce que le Seigneur n'a pas été fidèle jusqu'à présent? Est-ce que le Seigneur n'a pas été fidèle dans votre famille ou auprès d'amis dans le passé? Est-ce que ce que nous lisons dans l'Écriture ne sont pas des témoignages suffisamment puissants pour savoir que, en dépit du mal dans le monde, le Seigneur continue de soutenir sa création et continuera de prendre soin de ses enfants et de sa création? C'est là-dessus que nous devons nous appuyer. Et lorsque le Seigneur dit « Ne vous inquiétez pas », c'est parce qu'il y a ce grand Dieu qui est là derrière et qui soutient tout cela. Et en fin de compte, non seulement le Seigneur voudrait que nous nous débarrassions de ce qui nous ronge et nous empêche d'être dans l'adoration, mais en fait ce qu'il cherche à faire, c'est aussi nous libérer pour quelque chose de beaucoup plus grand. Et ce qui est beaucoup plus grand, c'est, il en parle en disant, est-ce que la vie n'est pas plus que le manger et le boire? Ben bien sûr que si, bien sûr que si. Combien de personnes aujourd'hui ont un compte en banque bien plein ou des comptes en banque bien pleins et tellement pleins qu'ils sont obligés d'en mettre ailleurs pour pas que ça se voie trop? Et leur vie est encore relativement monotone ou sèche. Nous savons tous qu'il y a plus à la vie. Dans notre Église, on a peut-être la chance d'avoir des familles et de sentir encore à quel point cela peut nous apporter des choses, de l'amitié, des projets qui ne sont pas nécessairement liés à l'argent ou à nos besoins. Tout cela, c'est beaucoup plus. Nous savons aussi que notre foi et notre vie d'Église valent beaucoup plus que nos biens. Le problème, c'est lorsque nous sommes préoccupés par ces choses-là, cela va commencer à limiter ce que nous pouvons faire dans ces autres domaines. Ainsi donc, il y a trois choses qui restent, me semble-t-il, à la fin. La première, c'est effectivement de ne pas s'inquiéter en pensant à ce que Dieu fait, mais aussi d'aller vers lui dans l'adoration et la reconnaissance, comme nous invite l'apôtre Paul. Mais aussi cette recommandation très pratique que le Seigneur fait à la fin de ce texte que nous avons lu, qui est « Puisque le Seigneur s'occupe de vous, vous-même passez votre temps à chercher le royaume de Dieu. Et tout le reste, le Seigneur s'en occupera. » Ça ne veut pas dire qu'il remplira votre compte en banque d'ici demain matin. Ça ne veut pas dire que vous n'irez pas travailler. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas au chômage. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'au sein de tout cela, le Seigneur, lui, s'en occupera. mais profitez de ces circonstances, que vous soyez dans l'abondance ou dans la disette, pour non pas vous détourner du Seigneur, comme nous met en garde l'auteur du livre aux Proverbes, mais au contraire, que vous puissiez, comme l'apôtre Paul, dire que j'ai été dans l'abondance ou que j'ai été dans la disette. La première des choses, c'est que le Seigneur m'a aidé à m'accommoder à ces situations-là. Et la deuxième des choses, c'est que j'avais toujours une raison pour rendre gloire au Seigneur. Chers amis, dans notre âge d'abondance, dans le pays de Jex, c'est pas toujours facile de parler des biens. Mais sauf que moi, je vous invite à faire, c'est que derrière notre vie relativement facile et d'abondance, c'est que vous réfléchissiez, est-ce qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous ronge et vous préoccupe, qui fait que vous êtes dans cette course effrénée à accumuler. Et même si ce n'est pas que pour vous-même, même si c'est pour plus tard, moi j'arrive même à raisonner quelquefois en me disant, ce que je vais pouvoir laisser à mes enfants, ça va pouvoir les aider à faire ça et ça et ça. Je deviens complètement zingue. J'ai toujours des espèces de projets complètement fous. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Est-ce que c'est l'inquiétude? Ou est-ce que c'est véritablement ce à quoi le Seigneur t'a appelé? Je pense que souvent, c'est plus l'inquiétude. Chers amis, la parole du Seigneur est poétique, elle est belle, elle est simple, mais elle repose sur des choses extrêmement fortes, qui est la grandeur de notre Dieu, la puissance de notre Dieu, même au sein même de ce qui nous semble mal, et fondamentalement, ça repose sur la bonté que le Seigneur manifeste envers nous. J'espère que cette parole restera dans votre cœur et sera une source de libération aussi, peut-être pas du jour au lendemain, mais en tous les cas dans les mois qui viennent, au fur et à mesure que vous prenez les décisions, que vous pensez à votre propre vie, que le Seigneur vous accompagne. Et si jamais le Seigneur devait vous faire traverser par des moments de difficulté par rapport à vos biens, que le Seigneur puisse mettre sa paix dans votre cœur, et comme l'apôtre Paul, que vous puissiez vous tourner vers lui et déjà le remercier pour ce qu'il a fait, mais aussi appuyer votre foi sur le fait qu'il s'est engagé et qu'il pourvoira à tous vos besoins. Amen.
Merci à chacun de ceux qui ont participé à ce culte. Je partage avec vous les annonces. C'est encore un petit peu les vacances, puisque cette semaine va être encore calme pour les activités de l'Église. Donc la prochaine activité, c'est le culte dimanche prochain. Un culte avec une touche d'évangélisation. C'est important peut-être aussi de le partager pour que, pourquoi pas, inviter l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, à ce culte. Les écoles du dimanche vont reprendre donc le dimanche d'après. Le groupe de jeunes, non, les écoles du dimanche reprennent le dimanche qui vient, donc dimanche prochain. Le groupe de jeunes, quant à lui, reprend le 14. Mais juste avant le 14, c'est-à-dire le 13, c'est un vendredi, il y a le concert Héritage. Alors moi, j'invite vraiment chacun de ceux qui sont ici à y participer. Tout d'abord parce que ce groupe Héritage, donc les deux chanteurs qui sont en photo, alors des petits flyers comme ça, il y en a au fond de la salle, vous pouvez en prendre. Il est composé des deux chanteurs qui sont là, ainsi que de quelques musiciens. Alors en fait, ce groupe a eu la vision de reprendre des anciens chants. Les chants qui étaient chantés quand j'étais tout petit, quand j'étais de la taille de ceux que nous avons présentés ce matin. Donc ils ont fait une sélection de certains de ces chants, de ces beaux chants. Ils les ont remis un petit peu au goût du jour, puisque vous avez vu, ils sont plus jeunes que moi, très nettement. Donc il y a un petit peu de... Ils ont amené dans ces chants beaucoup de fraîcheur, tout en gardant l'aspect important de ces chants, tout en gardant bien sûr les paroles, la mélodie, tout en gardant le cœur de ces chants. Donc c'est vraiment un concert qui nous concerne tous. Et ce concert donc va se passer à l'église de Crosswood. Donc en plus, il y aura de la place pour tout le monde. Et ce concert, c'est aussi un concert qui est organisé par Virage à l'occasion des 10 ans d'activité de l'association Virage. Ensuite, plus loin en avant, le samedi 5 octobre, il y aura un événement important dans l'église. Cet événement, c'est une suite et je vais laisser John vous le présenter.
Simplement, nous repartons sur la phase 2 de ces séminaires que nous avons commencé avec Yann Noubéry. Au mois de janvier, nous avions un premier séminaire ici, un samedi, où nous avons tous été vraiment très très enrichis par ce que Yann nous avait dit à propos de la prière et surtout de la prière personnelle. Mais là, cette fois-ci, le deuxième volet, c'est en fait la prière communautaire. Et donc, le format sera quasiment le même, c'est-à-dire que nous aurons le samedi 5, trois séances de 2 heures avec Yann, où ça sera une combinaison un petit peu d'enseignement, mais aussi de mise en pratique. Mais vraiment, le sujet central, c'est tout simplement comment et pourquoi est-ce que nous prions ensemble. Alors je sais que Yann fera principalement appel au livre de Néhémie dans la Bible, mais dès demain, nous mettrons sur le site déjà la possibilité de s'inscrire pour cette journée-là. N'hésitez pas à le faire dès que possible pour que nous puissions savoir un petit peu combien de personnes viendront, mais aussi pour vous remettre déjà quelques feuilles de questions pour vous aider à vous préparer un petit peu à cette journée. Donc réservez déjà votre date le samedi 5, nous remettrons la salle dans l'état où elle était là, nous aurons une garderie, nous aurons le repas ensemble, tirer des sacs le samedi. Et puis surtout, je suis certain que nous aurons un moment formidable ensemble.
Alors, des nouvelles des uns et des autres. Continuons de penser à Jacques Cuypers. Je n'ai pas eu d'infos plus récentes, mais continuons vraiment de penser à lui. Concernant Raymond, Raymond est entré à l'hôpital mercredi pour avoir une opération donc, des jambes. Mercredi passé, l'opération s'est bien passée. Cependant, Raymond est sorti peut-être un petit peu plus vite que ce qui était prévu. Il est déjà sorti hier, donc il est à la maison. Alors, imaginez un petit peu, lorsqu'on est opéré des deux jambes, se retrouver à la maison, c'est, oui, d'une jambe, une après l'autre, mais bon, c'est pas forcément évident, surtout lorsque c'était pas prévu au départ. Il souffre encore beaucoup. C'est peut-être encore un peu vite pour aller le visiter. Par contre, c'est bien assez tôt pour continuer à prier pour lui. C'est vrai que Dieu l'accompagne, que Dieu le fortifie, l'aide aussi par rapport à la douleur, et que Dieu le rétablisse. Je vous invite à vous lever pour clore notre culte, et je vais vous lire quelques versets dans les Éphésiens. C'est Paul qui nous dit: je prie que Dieu vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agite en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, donc du petit enfant aux personnes les plus âgées parmi nous, au siècle des siècles. Amen. Passez un très bon dimanche, une excellente semaine.